Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Mater Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux, qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique pour cet institut. Alors aujourd'hui, on va parler de catalyse et pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Java Wojcikova, et qui est doctorante et qui va nous parler anglais aujourd'hui, car elle vient de Slovaquie. Nous sommes donc également accompagnés de Océane Dubin, qui est en master de chimie et qui va nous traduire donc en direct le discours de Jana. Bonsoir Jana, bonsoir Océane.
Bonsoir.
Alors Jana, tu es doctorante en deuxième année. Ton sujet de thèse s'intitule « Immobilisation sur mesure de méthane monoxygénase soluble sur des structures métallo-organiques pour synthétiser des catalyseurs bio-hétérogènes pour l'oxydation des alcanes en chaîne légère ». Alors, c'est un petit peu compliqué. On peut peut-être commencer par expliquer cette thèse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
So can you explain your thesis in a few words, maybe?
Yes, sure. So my thesis, during my research, I'm focusing on developing on the catalyst, which is made by the fusion of naturally occurring enzymes, which I'm trying to immobilize, meaning that I try to put them on some solid support. And the reason why I'm doing this is that we want to transfer alkanes to alcohols and ideally methane, which is a greenhouse gas, to methanol.
Alors pendant ma recherche, moi le but c'est de travailler avec des catalyseurs qui sont en fait la fusion d'une enzyme et d'une structure MOF, donc on expliquera peut-être plus tard ce que c'est. Et donc pour pouvoir transformer les alcanes en alcool, voilà. Peut-être notre question après.
Alors bah justement, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est un catalyseur et ce que c'est un MOF?
So could you define what's a catalyst and a MOF?
Yeah, so the catalyst, you can imagine is it as a helper, which makes the chemical reaction happen faster. And also it's not being consumed in the reaction. And
Okay. Donc les catalyseurs, vous pouvez imaginer ça comme quelque chose qui va aider la réaction, qui ne sera pas consommée pendant cette réaction.
In fact, you can imagine that, for example, you want to make bread and you mix your water with your flour and you let it out. And naturally, in the air, there is yeast present, like always. And eventually, this yeast will make your dough fluffier and what we like about baking a bread. But this, in this situation, it can take hours, even days, for this reaction to happen. But if you buy commercial yeast and you add it in your mixture of flour and water, this reaction will happen within 1 hour, and so you can make your bread much faster.
Par exemple, vous pouvez imaginer que vous faites du pain. Donc, si vous mélangez votre farine et votre eau, vous pouvez laisser ça sur votre plan de travail et vous pouvez attendre des jours avant que quelque chose se passe avec les levures naturellement présentes dans l'air. Maintenant, si vous ajoutez vous-même votre levure que vous achetez dans le commerce, vous allez voir que la réaction se fait en 1 heure. Donc, voilà, les levures ici agissent comme un catalyseur dans la réaction.
On peut passer maintenant du coup à la définition du MOF.
So now maybe you can explain what is a MOF. Mm-hmm.
So MOF, it stands for Metal Organic Framework, but you can imagine it as a sponge. So it's something solid, but when you cut it in half and you have a closer look at it, you can see that it contains a lot of small pores within its structure. And this is what MOF is, in fact, but also, of course, on atomic level.
Donc un MOF, c'est... l'acronyme anglais pour réseau métallo-organique ou structure métallo-organique. Vous pouvez imaginer ça comme une éponge. Si vous la coupez en deux, vous verrez que l'extérieur est solide, mais l'intérieur est composé de plein de pores qui sont en fait la structure de notre MOF, mais à l'échelle atomique.
Donc l'objectif, comme tu viens de le dire, est de créer des catalyseurs, des éléments qui accélèrent la réaction en combinant deux composants, un MOF et une enzyme. Alors comment le MOF qui capture donc les molécules peut-il jouer un rôle dans le catalyseur?
So you explain what's your thesis about and the muff and the catalyst. Can you now explain how can the muff, which can capture the molecules, play a role in the catalyst?
Mm-hmm. So in fact, the main role of the muff, which serves as a support for the enzyme, its main role is to protect my enzyme. Because the biggest problem with enzymes in general is that they are very sensitive and we cannot reuse them. So the role of the support is protect the enzyme, so we can use higher temperature, higher pressure. And also very important point is that we make it this way, we make the catalyst reusable, which means that we are increasing the cost of catalyst and we are making it more efficient.
Donc le rôle du MOF dans notre cas, c'est de protéger notre enzyme, car une enzyme, c'est très sensible à l'environnement. Donc avec notre MOF, on peut la protéger, on peut aller à plus haute température ou à plus haute pression, par exemple. Et on peut aussi réutiliser notre enzyme plus souvent. Et du coup, ça va vers ce que nous, on veut faire dans cette recherche.
Et donc, dans quel domaine de la vie quotidienne, en fait, le catalyseur peut-il être utile ?
So in which section of life can the catalyst be useful?
Oh, the catalysts, in fact, are useful like everywhere and in everyday life. Statistically, 90% of all chemicals being produced by industry are using catalysts. And you can see it like here in your everyday life, the soap you are using for your hair, detergent, also the clothes we are wearing, and the dye which is used to color our textile is made due to the catalyst. And I could continue like this, even the plastic bottle we see around us, all the fermented food and the drinks.
Du coup, les catalyseurs, c'est partout autour de nous. En tout cas, c'est utilisé partout. Par exemple, pour le savon que vous utilisez, pour les teintures de vos vêtements, pour aussi les médicaments. Je pourrais continuer les exemples, mais dans 90% des choses que vous utilisez, il y aurait eu un catalyseur qui aurait été utilisé pour le fabriquer.
Très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a un MOF en particulier qui est utilisé?
So, are you using a particular or specific MOF for your
yes,
research?
In fact, I have to be very careful what MOF I'm choosing, because first it has to be compatible with my enzyme. And also, I have to choose the MOF which pores, as again, if I go to the sponge analogy, the pores or the holes within the sponge are big enough to be able to accommodate my enzyme, so I can protect it effectively.
Oui, alors en fait, il faut que je fasse très attention, moi, dans ma recherche, au type de MOF que j'utilise, car il faut que les trous dans mon éponge, si vous voulez, soient assez gros pour pouvoir accueillir mon enzyme, donc c'est important de bien choisir.
Et en termes d'enzyme, est-ce que tu utilises une enzyme en particulier et pourquoi tu utilises celle-ci?
So, talking about enzymes, which mm-hmm. one are you using and why?
So, in fact, I'm using several enzymes, but they all come from the same family. Their name is unspecific peroxygenases. And the reason why we chose them is that they can tackle like very wide range of substrates and they can make many different reactions to happen. And most importantly, that they are able to transform alkanes to alcohols, which coming back to the main goal of my project is that we want to transform greenhouse gas methane to methanol.
Alors les enzymes que j'utilise font toutes partie de la même famille qui sont les peroxygénases non spécifiques. Qui sont très polyvalentes puisqu'elles peuvent accueillir plusieurs types de substrats et elles permettent aussi de transformer les alcanes en alcool, qui est le but un des buts de ma thèse.
Et comment tu immobilises les enzymes?
How do you immobilize the enzymes?
Mm-hmm. So in fact the process is quite easy. I just take my enzyme, I take my MOF and I just mix them. But of course, there are different ways how those two components can interact. And first, as I said, it can be trapped within the pore of the sponge, or it can be immobilized on the surface of the sponge.
Donc, effectivement, pour immobiliser l'enzyme, je peux utiliser. Enfin, c'est très simple. Je peux donc utiliser juste mon enzyme et mon MOF. Je les mélange. Mais après, il y a plusieurs manières pour la manière dont ça peut s'immobiliser, soit on peut immobiliser l'enzyme en la l'emprisonnant dans notre éponge, dans notre muff, ou alors en l'immobilisant sur la surface.
Est-ce que tu as déjà réussi?
So have you succeeded yet?
Yes, I'm kind of happy to say that we succeed and we have preliminary results where we can actually see our enzyme being immobilized on a metal organic framework for the first time. And I still will have to do some testing, of course, and dig deeper into the deeper characterization. But for the moment, I can tell that, yeah, we have done it and it's working.
Donc oui, je suis très contente de pouvoir dire qu'on a réussi à immobiliser nos enzymes sur notre MOF, on a réussi à les voir. Après, il faudra caractériser plus en profondeur, mais jusque-là, on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait, donc je suis contente.
Félicitations. Et justement, une fois que l'enzyme est immobilisé dans le MOF, comment sais-tu que le catalyseur est efficace?
So once the enzyme is immobilized on the MOF, how do you know if the catalyst is effective or not?
Mm-hmm. So first, I have to test my free enzymes, meaning that I just take the enzyme, not immobilized, and I test its activity. And then I do the immobilization process and I test the activity again. So this way I can easily see if it's still active, if it's active more or less, and yeah, what the results are.
Donc, pour savoir si elles sont toujours efficaces après, on les teste quand elles sont libres pour savoir si elles fonctionnent. Après, on les immobilise sur notre MOF et ensuite on revérifie une deuxième fois qu'elles fonctionnent toujours ou si elles fonctionnent plus ou moins qu'avant.
Est-ce qu'il y a une technique pour être sûr que l'enzyme est à l'intérieur du MOF?
So is there a technique to know if the enzyme is really inside the MOF or on the MOF?
Mm-hmm. Yeah, this is the tricky part, in fact, because I have tested it. I know it's working. And there are some techniques, like, for example, we are using microscopy where we can clearly see the enzyme being on the MOF. And the pictures are very, very nice. It's too bad I cannot show you. the technique to be able to see if the enzyme is in the sponge, we are still trying to develop it and we are working on it and find the best way how to see and to confirm that what we intended to do, it actually happened.
Donc oui, alors il y a des techniques pour voir effectivement qu'on a notre enzyme sur notre MOF. On peut utiliser le microscope par exemple, parce qu'on a quand même testé pour savoir si notre enzyme fonctionnait, ce qui est le cas, mais pour les voir, il faut utiliser un microscope, mais pour savoir si elles sont vraiment dans l'éponge, donc dans les pores de l'éponge, on est toujours en train d'essayer de trouver une technique pour voir à l'intérieur plus, parce qu'à la surface, on utilise donc le microscope.
Très bien. On va finir cette première partie avec une dernière question. Peux-tu nous présenter RealCat? C'est la plateforme où tu travailles, en fait.
So for the last question, can you introduce RealCat, the platform where you work?
Yeah. So the RealCat platform is a platform which is dedicated to catalysis, including the biocatalysis, meaning using enzymes, but also chemicatalysis, homogeneous and heterogeneous. And the fact we have a high throughput screening and we are using robots, which really speeds up the process because I'm able to test 24 different catalysts and perform 24 different tests at the same time, which saves us a lot of time and yeah, it's very convenient.
Donc la plateforme RealCat, c'est une plateforme dédiée aux catalyseurs, qu'ils soient biologiques ou chimiques. Donc biologiques, c'est les enzymes, chimiques, homogènes, hétérogènes, voilà. Et on peut donc, avec cette plateforme, utiliser des robots pour accélérer les processus. Par exemple, je peux utiliser moi le robot pour tester jusqu'à 24 catalyseurs au même temps, donc ça accélère vraiment tout le processus et c'est quand même plus facile.
Normalement, pour faire ces 24 tests, ça prendrait combien de temps sans le robot?
How long would it take you to do the 24 tests without robots?
Without robots. I have done it, in fact, and to be honest, it took me something like a week. And with robots, I can do it in 1 hour. Mm. So,
Donc oui, moi j'ai essayé de le faire sans le robot, ça m'a pris une semaine et c'est sûr qu'avec le robot, bon, ça prend une heure, quoi, donc c'est plus rapide.
C'est plutôt rapide. Merci Jana, merci Océane pour ces premières réponses. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec le morceau choisi par Jana, c'est Mercury de Stevie Lacey. La deuxième partie de cet épisode de Mater Radio sur Radio Campus. Je suis toujours en compagnie de Jana, une doctorante de deuxième année, et de Océane, notre traductrice. Alors, on vient d'écouter Mercury de Stevie Lacey. Alors, Jana, c'est toi qui as choisi ce morceau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
So, you were the one choosing the song. So, could you explain us why ?
Yes, so I chose this song. Well, I didn't know which song to choose because I could choose just one. But the artist, because I think he's great and he's not very well known. So I think that he deserves more attention because he's not afraid of like mixing styles, soul and jazz and rap. And I think it just works.
Donc au début, je ne savais pas quelle chanson choisir, mais au final, j'ai décidé de choisir celle-ci car je trouve que l'artiste est vraiment, vraiment super et qu'il n'a pas peur de mélanger plusieurs styles comme le jazz, le rap, la soul, et qu'il mériterait d'avoir un peu plus de reconnaissance et d'être un peu plus connu.
Très bien. Alors maintenant, on va passer sur la partie sur ton parcours et tes motivations qui t'ont conduite vers la recherche. Est-ce que tu peux nous dire quelles études as-tu suivies ?
So now about your personal background, could you tell us about the studies you followed?
Mm-hmm. So I studied in Slovakia, in Bratislava, which is the capital, at the Technical University. And during my bachelor, I was studying like materials and medicinal materials and so on. And then maybe now you want to translate.
Donc moi j'ai étudié en Slovaquie à Bratislava, ce qui est la capitale, à l'université technique, et j'ai commencé donc ma licence sur les matériaux plus.
Yeah, and then I continue at my master studies when I focused on inorganic chemistry. And this is the first time when I can get in touch more with the material chemistry and reticular chemistry, which brought me to my PhD.
Et donc après, j'ai continué sur un master de chimie inorganique et matériaux qui donc m'a rapproché et m'a permis de plus travaillé sur les matériaux et qui m'a rapproché de mon sujet de thèse, du coup.
Et pourquoi as-tu décidé de poursuivre avec un doctorat?
And so why did you decide to pursue a PhD?
So, in fact, I remember the moment when I decided to do PhD. It was when I did my first internship during my master in Toulouse in CNRS. And this was the first time when I was like surrounded by PhD students and I could see what they are doing, what their life look like and how they complain about things. But then at the end of the day, they've been happy and I saw myself doing this.
Donc je me rappelle très bien du premier jour où je me suis dit que j'allais continuer en doctorat, c'était quand j'ai fait mon premier stage à Toulouse au CNRS et que j'étais entourée de doctorants qui se plaignaient ou racontaient ce qu'ils faisaient et ça m'a plu et je me suis imaginée faire ça aussi.
Ton doctorat a une particularité, tu le réalises dans le cadre d'une collaboration entre plusieurs universités de différents pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
So your PhD is a particularity, a specificity that is between different countries. So could you tell us more about it? Mm-hmm.
Yes, yeah, sure. So I'm a part of the DEMO project, which is a project funded by European Union. And in fact, I'm pursuing like a double PhD degree between University of Lille, which is here in France, and between University of Torino, which is in Italy. Plus I did a short term stay in a company called Profmov in Norway.
Donc mon doctorat il est entre plusieurs en collaboration entre plusieurs pays qui fait partie du c'est DEMO.
DEMO. Yes. Okay.
Donc c'est partie du programme DEMO entre plusieurs pays et donc moi je suis entre Lille et Turin en français il me semble. Ouais. En Italie, et j'ai aussi eu l'occasion de faire un court séjour en Norvège.
Donc grâce à ces périodes de travail dans différents laboratoires, tu as eu l'occasion de découvrir différentes techniques. Est-ce que tu as dû suivre des formations et comment ces formations s'intègrent dans le cadre de ton doctorat?
So during your stay in those different universities, you discovered new techniques, I guess. Mm-hmm. And so did you have to undergo training and how does it fit in with your PhD?
Yeah, sure. In fact, I have to get like 30 credits from the University of Lille and the same from University of Torino. So I have to take some classes, I have to take the trainings for my research. And in fact, the reason why I was moving so much was that every laboratory I visited was dedicated to a certain part of my research.
Donc effectivement, je dois suivre des cours à l'université de Lille et à l'université de Turin. Je dois avoir 30 crédits dans chacune de ces universités. Et aussi la raison pour laquelle j'ai autant bougé ma première année entre du coup les différents pays, c'était pour en savoir un peu plus sur les différents sujets relatifs à ma thèse.
Et alors justement, pourquoi ce sujet t'a-t-il intéressé en particulier?
And so, why does this topic interest you?
So, the topic interests me because, as I told you already, I did my master in reticular chemistry, and I really like this topic. And the reason why I applied for this PhD was that I kind of like the combination and the fusion of the two different worlds, which is the chemistry, studying the materials and combining it with the biological part, which involves working with the enzymes and trying to put those two entities work together and create something new and interesting.
Donc la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet et la raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est que mon master m'a beaucoup plu sur la chimie réticulaire, j'imagine la traduction, j'ai pas là. Et que du coup, cette thèse mixe aussi plusieurs sujets différents, donc la chimie inorganique et l'enzymologie, la biologie. Et donc, je voulais voir comment ces deux sujets pouvaient se mélanger.
Après ce doctorat, est-ce que tu as une idée de ce que tu souhaiterais faire?
So, do you have an idea of what you want to do after your PhD?
Yeah, this is the favorite question of all PhD students. And somehow I would like to stay maybe in academia because I like how diverse it is. Like I'm not just being in the lab or I'm just not being in the office and writing and preparing, but it's like one day doesn't look like the other one. But for the moment, I cannot clearly say if I'm going to pursue career in academia or I would like to go to industry. But yeah, this is something I think I will see how my life will go and when it's going to bring me.
Donc, c'est la question préférée de tous les doctorants. pour l'instant, je pense que j'aimerais rester dans la recherche parce que c'est quand même très dans la recherche académique, parce que c'est quand même très diversifié. On peut, je sais pas, tous les jours à être au laboratoire ou tous les jours à écrire un article. C'est un peu un mélange de tout ça. Et tous mes jours ne se ressemblent pas. Je fais des choses différentes tout le temps. Mais pour l'instant, je ne saurais pas dire si je veux me diriger vers l'industrie ou l'académie, mais on verra où la vie me mène.
On va terminer cette émission avec une dernière question qu'on pose à chaque fois. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui seraient intéressés par la recherche, mais qui auraient quelques petits doutes?
So last question that we ask all the time. What advice would you give to young people that would be interested to pursue a PhD, but maybe have some doubts?
Mm-hmm. So first advice I would give is maybe that you will have to be sure about that you want to pursue a PhD, because necessarily it's going to bring you some hard times and it's not easy all the time. But I think that at the end of the day, it has more advantages and it really enriches your life in the ways you wouldn't even imagine that PhD can do.
Donc tout d'abord, je voudrais dire qu'il faut que vous soyez sûr que vous voulez vraiment en faire un, parce que vous allez avoir des moments assez difficiles, mais vous ne le regretterez pas à la fin du voyage. Vous verrez qu'un doctorat, ça vous emmène plus loin que ce que vous pensez et vous apporte plus que ce que vous pensez.
Parfait, merci Jana et merci Océane pour toutes ces réponses. C'est la fin déjà de notre émission. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine émission de Mater Radio qui sera la dernière de 2025. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée.
Thank you for having me.